France Inter, il est 13h. Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce 13-14, à la une aujourd'hui. À quoi ressembleront notre réveillon et nos semaines à venir? Élément de réponse cet après-midi alors que le taux d'incidence de la Covid flambe. L'exécutif tient un nouveau conseil de défense et un conseil des ministres pour réévaluer la situation. On vous dévoile dans ce journal les pistes privilégiées et ça l'écarter comme le report de la rentrée scolaire. Première réaction des parents, la coprésidente de la FCPE sera notre première invitée. On entendra aussi les inquiétudes des entreprises. Absentéisme multiplié par 8 pour cause de Covid. Julien Fercobel dirige une société de BTP.
Ça m'inquiète particulièrement puisque tout va prendre du retard. En production, les gens sont sur les chantiers à l'extérieur. On va dire que les risques sont un petit peu plus limités. Mais si vous n'avez pas les plans qui vous permettent de travailler sur chantier, ça risque de beaucoup moins bien marcher.
Et l'invité de 13h30 sera le chercheur au CNRS et spécialiste des variants de la Covid, Bruno Canard. Vos questions 01 45 24 7000 et sur l'application France Inter. Dans le journal encore, ça va mieux sur le front de l'emploi. Bilan d'une année de reprise à suivre. Le coût faramineux des catastrophes météo, plus de 150 milliards d'euros cette année. Et encore, c'est une estimation basse, vous verrez. Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée nous a quittés. Il était à l'origine, entre autres, de la série Big Little Lies. Et dans la deuxième demi-heure, à partir de 13h30, on écoute du Wagner dans notre chronique musicale. La vie serait moins belle sans lui, selon la chanteuse Jeanne Haddad. Retour sur nos feuilletons de l'année. Rendez-vous 4 mois plus tard avec une médecin du travail toujours prise dans les affres de l'épidémie. Et puis Jean Lefebvre et son vif de l'histoire nous emmènent à la découverte de lieux historiques visitables mais méconnus. Le premier aujourd'hui, c'est la colonne de Juillet à Paris. Le 13-14, vous avez le menu, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
En pleine trêve des confiseurs, ressortir l'arsenal anti-Covid face à la flambée du virus. L'exécutif se réunit cet après-midi pour, je cite, « réévaluer la situation au vu des derniers chiffres de l'épidémie de Covid ». Un taux d'incidence de 647 pour 100 000 habitants et la barre des 100 000 contaminations par jour franchie pour la première fois samedi dernier. Toute la subtilité consiste à contrer la vague sans mettre l'économie à l'arrêt. Bonjour Anne Souhaitemont.
Bonjour Marion.
Conseil de défense à 16h30, conseil des ministres à 17h30. Est-ce qu'on a déjà des certitudes sur ce qui nous attend?
Alors, dans l'exécutif, on insiste, hein, tout est sur la table. Le conseil de défense doit servir à arbitrer. Mais en réalité, Marion, plusieurs pistes sont d'ores et déjà écartées. Le confinement, c'est non. Et puis c'est pareil pour la prolongation des vacances scolaires demandée par la candidate de la droite à la présidentielle Valérie Pécresse, déjà arbitrée, déjà rejetée selon une source gouvernementale. La question ne sera même pas à l'ordre du jour de ce conseil de défense sanitaire. La règle, depuis le début de la pandémie, explique un conseiller, c'est que l'école, c'est sacré. Même si, on confesse, regardez avec attention les données qui arrivent par exemple de New York, où les hospitalisations d'enfants sont en nette hausse. Sur la question que beaucoup de Français se pose, celle du réveillon du 31, de la mise en place, comme l'an dernier, d'un éventuel couvre-feu. Rien n'est encore décidé. Cette hypothèse ne tient pas la corde, nous disent plusieurs sources, mais elle fera bien l'objet d'une discussion cet après-midi en Conseil de défense.
Et il reste encore des décisions à prendre. Donc, selon vos informations, Anne, plusieurs pistes sont à l'étude.
Oui, faut-il élargir l'obligation du port du masque à l'extérieur, comme c'est déjà le cas dans certains départements, rétablir des jauges, fermer des établissements. Toutes les pistes seront examinées cet après-midi, tout comme celle de la réduction de la période d'isolement pour les infectés et les cas contacts Omicron, si et seulement si les données scientifiques sur sa moindre contagiosité se confirment. Olivier Véran doit faire un point. L'objectif, il est évidemment très clair. Éviter la paralysie du pays alors que le nombre de cas est en train d'exploser. Mais plus que jamais, on ne cesse de le répéter, l'exécutif mise sur la vaccination, pilier de sa stratégie depuis des mois maintenant, d'où la présentation fait rarissime entre Noël et Nouvel An du projet de loi qui doit transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Ce sera cet après-midi pour un début d'examen dès mercredi en commission à l'Assemblée. Alors, seront concernées les activités de loisirs, les restaurants et débits de boissons, les salons professionnels ou encore les transports interrégionaux, notamment ferroviaires.
Anne Souhaitement du service politique de France Inter, merci à vous. Tout le détail des nouvelles annonces et les réactions à suivre, bien évidemment, ce soir sur France Inter, notamment dans un téléphone sonne spécial à partir de 19h20. Une certitude donc, Anne Souhaitement le disait, la rentrée scolaire aura bien lieu le 3 janvier, malgré les demandes de la candidate LR à la présidentielle et d'une cinquantaine de personnalités dans le JDD le week-end dernier. Pour réagir à cette première annonce, nous sommes avec Carla Dugo, coprésidente de l'association de parents d'élèves FCPE. Bonjour.
Bonjour.
La rentrée aura lieu donc comme prévu, à la date prévue. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, écoutez, nous les parents, c'est ce qu'on veut. En fait, les parents travaillent donc tout ce week-end, justement un week-end de Noël, puisqu'on a entendu aussi les informations. Les parents étaient plutôt inquiets parce qu'ils doivent aussi reprendre le chemin du travail. Donc c'est toujours très compliqué. Et les parents participent fortement depuis plus de 2 ans à l'effort national. Donc ces derniers temps, c'était la question des tests. Donc ils ont bien sûr été faire les tests lorsque c'était nécessaire. Mais les tests, soit il n'y en avait plus en pharmacie, soit les rendez-vous étaient très longs. Donc les parents sont épuisés et sont aussi inquiets pour leurs enfants concernant la scolarité de leurs enfants.
Voilà, alors justement, donc, en fait, vous êtes pour oui. Le fait que la rentrée ait lieu dans les temps, mais on voit aussi le taux d'incidence qui explose chez les enfants. On voit aux États-Unis des hospitalisations d'enfants en bas âge, ça ne vous inquiète pas ça ?
Bah écoutez, bien sûr, en fait, les parents, c'est ce qu'ils veulent. En fait, les parents veulent que leurs enfants reprennent le chemin de l'école, mais veulent aussi que leurs enfants soient en sécurité. Et aujourd'hui, les moyens qui sont demandés, entre autres par nous, la FCPE, ne sont toujours pas au rendez-vous, malheureusement. En fait, il faut être, comment dire, très, très clair. Il faut que ces moyens soient vivement et rapidement déployés dans tous les établissements scolaires, c'est-à-dire les capteurs de CO2. Ils ne sont toujours pas installés.
Ils ne sont pas financés par l'État.
Exactement. En fait, il faut aussi investir dans les systèmes d'aération. Il faut aussi que les masques soient gratuits parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est toujours les familles qui doivent les prendre en charge. Il faut aussi penser à la question du remplacement des enseignants qui sont aussi malades. Donc voilà, donc il y a tout ça en fait on le demande depuis très longtemps.
Les tests massifs,
ces moyens ne sont pas en place.
Les tests massifs qui étaient promis par le ministre de l'Éducation, est-ce qu'ils se font effectivement ou pas ?
Ben non, justement, en fait pas du tout. En tout cas sur le terrain, on voit bien que ces moyens manquent cruellement. Donc c'est ça qu'il faut se donner comme objectif très précis. Donc il ne faut plus tarder, il faut embaucher des enseignants, il faut embaucher des infirmières scolaires, il faut installer ce que je viens de dire, des capteurs de CO2, il faut investir dans les systèmes d'aération, il faut que les masques soient pris en charge par la puissance publique et non pas par les familles. Voilà, donc les parents sont évidemment très inquiets pour la scolarité de leurs enfants et bien sûr la santé aussi de leurs enfants, évidemment.
Et un des outils préconisés par le gouvernement pour lutter contre l'épidémie, Carla Dugo, c'est la vaccination, notamment la vaccination des enfants qui reste volontaire. Est-ce que vos adhérents y sont favorables ? Est-ce que vous voyez le taux de vaccination des jeunes enfants augmenter ?
Bon, écoutez, les parents d'enfants, des adolescents, oui, ont joué le jeu très rapidement parce que les adolescents eux-mêmes demandaient à être vaccinés parce qu'ils ont aussi envie de reprendre une vie normale. Le confinement durant 2 ans a aussi des conséquences très importantes, en fait.
Et pour les plus jeunes.
Sur nos enfants, voilà. Sur les plus petits, en fait, oui, la FCPE, sa position, c'est bien sûr de toujours écouter les préconisations des autorités de santé. Aujourd'hui, on pense en tout cas à la FCPE c'est les parents qui décident, mais encore faut-il que les parents aient les bonnes informations. Vous voyez, en fait, la FCPE a demandé il y a très longtemps aussi qu'il y ait un débat en fait au Parlement, que les législateurs en fait finalement se positionnent sur cette question très importante et que un temps d'explication, de sensibilisation auprès des parents soit fait. Aujourd'hui, tout ça n'a pas été fait non plus.
Donc de la clarté et des moyens, c'est ce que vous demandez au gouvernement.
Exactement.
Merci Carla Dugo, coprésidente de l'association des parents d'élèves FCPE. On en parlait, l'une des données que l'exécutif va considérer, c'est le poids des contraintes sanitaires pour l'économie. Un autre chiffre pour l'illustrer, les arrêts de travail délivrés par l'assurance maladie aux personnes cas contact ont été multipliés par plus de 8 depuis début novembre. De quoi désorganiser toute la société, estime le conseil scientifique. C'est déjà le cas dans beaucoup d'entreprises, du bâtiment par exemple. Vous l'avez constaté en Savoie, Colline Mollard.
Le télétravail, ça ne marche pas chez tout le monde.
Couler du béton par Internet, ça marche pas bien. Interagir sur des plans, c'est relativement compliqué. On a un métier qui oblige un petit peu le contact.
Julien Fercobel gère les 90 salariés de son entreprise de maçonnerie à Méry.
Dans les bureaux, on a eu récemment 5 cas. Ça m'inquiète particulièrement puisque tout va prendre du retard. En production, les gens sont sur les chantiers à l'extérieur. On va dire que les risques sont un petit peu plus limités. Mais si vous n'avez pas les plans qui vous permettent de travailler sur chantier, ça risque de beaucoup moins bien marcher. Si vous ne pouvez pas établir vos factures, si vos fournisseurs ne vous envoient pas les bons commandes, les bons livraisons.
Alors il faut sans cesse se réorganiser. Patrick Ricchiero représente le secteur du BTP en Savoie.
On subit des arrêts de travail successifs. Ça suscite forcément des retards d'intervention au niveau de nos chantiers, forcément. Il ne faut pas qu'on ait un état de panique. Il faut être très réactif et s'organiser en fonction de l'urgence. Il faut qu'on prévienne nos clients. C'est plus de la pédagogie qu'il nous faut expliquer.
Car avec les arrêts de travail, plus la pénurie de matières premières, les chantiers peuvent prendre facilement plusieurs mois de retard.
Reportage France Bleu Pays de Savoie. Les transports aussi subissent le contre-coup de cette nouvelle vague de Covid. Faute de personnel, le trafic de la ligne ferroviaire, le Léman Express entre France et Suisse restera perturbé jusqu'à vendredi. Près de 8000 vols aériens ont été annulés ce week-end pour cause de personnel navigant contaminé ou exposé au coronavirus. Ça devrait continuer aujourd'hui et demain. Plus de 2000 liaisons sont sur la sellette pour ce lundi. Côté maritime, aux États-Unis, plusieurs navires de croisière se seraient vus refuser l'accès à des ports des Caraïbes, selon le Washington Post. 60 bateaux font l'objet d'une enquête des autorités sanitaires. Il y a donc d'un côté la vie et l'économie, de l'autre la santé publique et l'impératif de pouvoir soigner à l'hôpital les cas de Covid les plus graves. Le nouveau variant Covid Omicron est plus contagieux, potentiellement moins dangereux que d'autres souche pour les vacciner, d'après de récentes études britanniques. Il est sans doute d'ores et déjà dominant en Île-de-France, disait ce matin sur France Inter l'épidémiologiste Dominique Costagliola. Le variant Delta, lui, est toujours là en France et responsable encore de nombreuses hospitalisations. Bonjour Alice Cachaner.
Bonjour.
Spécialiste santé de France Inter. Cette combinaison Omicron et cinquième vague du variant Delta, qu'est-ce que ça donne à l'hôpital en ce moment? En clair, les services hospitaliers sont-ils submergés?
Alors, submergés, pas encore, mais indéniablement, la situation est de plus en plus tendue. Les plans blancs ont été déclenchés dans de nombreux hôpitaux. Il faut dire qu'on compte davantage de décès, plus 10% par rapport à la semaine dernière, et plus d'admissions en soins critiques. Selon les derniers chiffres de Santé publique France, 3300 personnes sont en réanimation pour Covid. Il y en avait 6000 en avril dernier, c'est donc en dessous des vagues précédentes. Mais après 2 ans de crise, l'hôpital est particulièrement fragilisé. Au niveau national, les services de réanimation observent un taux de saturation de 65%. C'est assez variable d'une région à une autre. 38% en Normandie contre 98% en Provence-Alpes-Côte d'Azur, où toutes les interventions non urgentes sont déprogrammées.
Et cette affluence pose tout de même, Alice, la question de l'isolement des soignants.
Oui, car eux aussi peuvent être cas contact ou positifs. Or, une hausse de l'absentéisme peut vraiment mettre en difficulté les hôpitaux. Il faut à tout prix éviter des fermetures de lits, met en garde Bruno Bégabarne, chef du service réanimation de l'hôpital Lariboisière à Paris, au micro de France Info.
Dans la situation actuelle, l'hôpital ne peut fonctionner. Il faut bien sûr revoir les situations d'isolement en cas de contact, mais même pour l'hôpital, revoir la possibilité de certains soignants qui seraient contaminés par Omicron, asymptomatiques, voir s'il serait possible qu'ils puissent travailler, notamment dans des zones consacrées à la prise en charge de patients Covid.
Assouplir les règles d'isolement pour certaines professions, cela fait partie des pistes qui seront étudiées cet après-midi lors du Conseil de défense.
L'hôpital où les enfants atteints de Covid arrivent toujours plus nombreux à New York, aux États-Unis. La moitié des patients admis avec le virus entre le 5 et le 19 décembre avaient moins de 5 ans. Le détail des chiffres sur notre site franceinter.fr. Vous y trouverez aussi un gros plan sur l'Île-de-France et son taux d'incidence très élevé. Pour décider quelles mesures à adopter cet après-midi, le président et le gouvernement tournent naturellement le regard vers l'étranger où les restrictions sanitaires sont souvent plus sévères. Au Danemark, les lieux culturels et sportifs sont fermés, masques obligatoires en extérieur. En Espagne, horaires d'ouverture réduits pour les bars et restaurants finlandais, télétravail généralisé en Suède. En Chine, pays d'origine de la Covid-19, la ville de Xi'an a même décidé de confiner ses 13 millions d'habitants, commerces fermés, sorties autorisées tous les 3 jours seulement. Une illustration de la stratégie zéro Covid stricte mise en place par Pékin à l'approche des Jeux Olympiques de février. On recense en effet à Xi'an près de 635 cas de Covid depuis le 9 décembre dernier. Vous êtes le correspondant de France Inter en Chine. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Les autorités ne cachent pas leur inquiétude pour les prochains jours.
Oui, c'est ça. Hier soir, lors d'une conférence de presse à Xi'an, les autorités municipales ont clairement indiqué que la crise était loin d'être réglée. En fait, au moment des premiers cas, la municipalité n'a pas été en mesure d'identifier le foyer d'origine. Et depuis, eh bien, le virus s'est propagé à l'ensemble de la ville, l'ensemble des quartiers. Et selon He Wenchman, qui est l'un des hauts responsables du gouvernement municipal de Xi'an, il va falloir s'attendre encore à des moments difficiles.
Il est possible qu'un grand nombre d'infections pourraient encore apparaître dans les prochains jours après des tests à grande échelle, donc ne paniquez pas. Actuellement, la ville a mis en place 4 485 points du dépistage et 31 000 personnels de santé sont chargés de réaliser les tests, notamment des équipes mobiles.
Voilà, les 13 millions d'habitants sont testés en continu. Ce matin, c'est la troisième vague du dépistage qui a démarré, la troisième en 4 jours.
Et de gros moyens sont déployés en ce moment même aussi pour désinfecter la ville.
Oui, tôt ce matin, des milliers d'agents sont entrés en action avec des véhicules de nettoyage. Ils pulvérisent des produits désinfectants dans l'air en grande quantité. Un habitant que nous avons eu au téléphone tout à l'heure nous a dit que c'était vraiment impressionnant. Même les plantes dans les jardins publics sont désinfectées. Les habitants qui observent ça depuis les fenêtres de leurs appartements, toujours confinés. Désormais, ils ont l'autorisation de sortir pour aller faire des courses seulement tous les 3 jours et non plus 2, comme c'était le cas jusqu'ici. Malgré quelques bousculades et quelques bagarres signalées aux abords de certains supermarchés, la situation est globalement calme à Xi'an.
Sébastien Berriot en direct de Pékin pour France Inter. Merci beaucoup. Autre pays où cette fois les contraintes sanitaires suscitent les protestations des citoyens, la Belgique. Depuis hier, les salles de spectacle et de cinéma restent portes closes pour juguler la progression d'Omicron. 5000 personnes ont défilé malgré la pluie hier pour dénoncer cette décision radicale. Alors que le cinéma reprenait tout juste des couleurs aux États-Unis, par exemple, le nouveau Spider-Man est devenu le premier long métrage de l'ère post-Covid à engranger plusieurs milliards de dollars au box-office. Les exploitants espèrent donc, chez nous aussi, ne pas devoir cesser les projections. La directrice du cinéma CGR Auxerre, Catherine Radosavevitch, préfère ne pas penser à une éventuelle fermeture. Elle reste optimiste.
Quand on voit que dans certains pays, les cinémas ont refermé, c'est un petit peu effrayant, c'est un petit peu alarmant pour nous. Mais maintenant, voilà, on reste dans une optique positive, en se disant qu'il y aura peut-être d'autres mesures qui seront mises en place pour éviter effectivement le confinement complet. Donc voilà, on va attendre de voir ce qui se passe et on va croiser fortement les doigts pour ne pas avoir à fermer. Je préfère être positive et me dire que le plus dur a été passé et que effectivement pour nous, même si un couvre-feu doit être mis, même si des choses vont être mises, on va savoir s'adapter comme on a toujours su s'adapter depuis le début. Alors certes, on n'a pas encore rattrapé le manque qu'on a eu au niveau des entrées, mais on commence à le sentir, notamment avec la sortie du Spider-Man, où là effectivement on fait des très très grosses séances. Les gens viennent vraiment le découvrir en salle, ils ont vraiment une envie de venir nous voir.
Des propos recueillis par Nouran Mahmoudi de France Bleu Auxerre. Le Covid, les nouvelles mesures contre la 5e et 6e vague et les risques que nous font courir les variants comme Omicron avec cette impression d'éternel retour. On en parle à 13h30 sur France Inter. Notre invité est le chercheur Bruno Canard, spécialiste des mutations du coronavirus. Une note positive dans cette année sombre sur le plan épidémique. L'économie semble bien se redresser, l'emploi notamment. En témoignent les derniers chiffres de Pôle emploi. Le mois dernier, le nombre de chômeurs à temps plein a baissé de 1,7%, moins 0,7% si on compte ceux qui ont exercé des emplois à temps partiel ou des CDD. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
C'est l'épilogue d'une année de baisse du chômage et de reprise de l'emploi.
Oui, on va remonter le fil de cette année de rebond de l'emploi. Fin du premier trimestre, premier frémissement très net, avec après une hausse vertigineuse de 6% en un an en pleine crise sanitaire. Le chômage commence à baisser pour les 25-49 ans. Ça ne baisse pas par contre pour les jeunes et pour les seniors. Mais trois mois plus tard à l'été, le rattrapage a bel et bien eu lieu. Non seulement on efface ce qui a été perdu l'an passé, mais l'économie crée 200 000 emplois supplémentaires nets. Résultat, un point de moins de chômage au niveau national par rapport aux chiffres de deux ans plus tôt. Rebond particulièrement visible dans le commerce, les loisirs, le secteur de la santé et pour tous les âges. Et cette baisse du chômage semble donc se confirmer au troisième trimestre, même s'il nous manque les chiffres de décembre. Fin novembre, le nombre de jeunes sans aucune activité est à son plus bas niveau depuis 2008. Rappelons quand même que beaucoup de chômeurs ont logiquement basculé vers une activité partielle ou réduite, d'où une légère augmentation de ce qu'on appelle les catégories B et C. À noter que l'Île-de-France, elle n'a pas encore tout à fait rattrapé son niveau d'avant-crise. Et puis, en cette fin d'année, de grosses difficultés de recrutement sont toujours d'actualité, dans l'hôtellerie-restauration notamment.
Claire Chaudière, au service économie de France Inter, merci à vous. Au chapitre économie encore, les catastrophes météo ne sont pas seulement un désastre pour la planète et pour leurs victimes directes. Elles coûtent aussi de plus en plus cher. Les 10 plus grosses cette année ont fait plus d'un millier de morts, plus d'un million de déplacés et aussi dépassé les 150 milliards d'euros de dommages et intérêts. Bonjour Célia Quiré.
Bonjour Marion.
Spécialiste environnement de France Inter, ce sont des sommes faramineuses qui prouvent l'impact grandissant du réchauffement climatique.
Oui, et une nouvelle fois, ce sont les États-Unis qui payent la plus grosse facture. Cette année, la catastrophe la plus coûteuse a été la tempête Ida à la fin de l'été, avec ses inondations spectaculaires à New York, montant estimé par l'ONG près de 60 milliards d'euros, encore plus que les inondations de juillet en Allemagne ou en Belgique. Ensuite, il y a eu la tempête hivernale Uri, toujours aux États-Unis, avec une vague de froid qui a notamment paralysé le réseau électrique au Texas. Dans ce classement, l'ONG note aussi des inondations en Chine, en Colombie-Britannique au Canada, des cyclones en Inde, au Bangladesh ou au Sri Lanka. Et la France n'est pas épargnée avec cette vague de froid tardive du mois d'avril. Si vous vous souvenez, des vignes ont été ravagées, des vignes prestigieuses, notamment dans la vallée du Rhône. La facture est loin d'être négligeable, près de 5 milliards d'euros. Pour donner un élément de comparaison, en 2020, la tempête Alex, qui avait frappé la vallée de la Roya dans le sud-est de la France, avait coûté moins cher, près de 3 milliards d'euros.
Et Célia, le montant dont on parle, c'est une fourchette basse, car on ne parle là que des pays riches.
Oui, car ces évaluations sont basées uniquement sur les dommages qui sont assurés. Cela concerne donc surtout les pays développés où il y a des assurances. Les coûts réels pour la planète entière sont sans doute bien plus élevés. Or, l'ONG le dit bien, certains événements météo très dévastateurs ont frappé des pays pauvres, non responsables du réchauffement, et ils ne sont pas couverts. Exemple, le Soudan du Sud, des inondations ont affecté 800 000 personnes et leur coût économique n'a pas été évalué.
Célia Quiré, spécialiste environnement de France Inter. À propos de réchauffement, on attend en France une météo anormalement douce cette semaine, jusqu'à 16 degrés en milieu de semaine selon Météo France, et même 19 degrés par endroit. La météo complète, c'est juste avant 13h30 sur France Inter. 12e jour de grève du ramassage des ordures à Toulouse. Les éboueurs seraient 90% à suivre le mouvement selon nos confrères de France Bleu. En cause, comme à Marseille dernièrement, la mise en œuvre des 35 heures et la fin de la pratique du fini parti qui permet aux employés de rentrer chez eux une fois la collecte terminée. Une réunion avec la métropole a tourné court en fin de semaine dernière. Ils ont passé Noël en cavale, mais la police les a finalement rattrapés hier en Allemagne. Le détenu évadé de l'hôpital de Pontoise mardi et sa compagne ont été interceptés à Wegberg, près de la frontière des Pays-Bas. L'homme de 28 ans et la jeune femme de 17 ans. Bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Les deux fuyards donc ont été très vite localisés grâce notamment au travail conjoint avec la police allemande.
Ils sommeillaient dans leur voiture quand les policiers de Düsseldorf leur sont tombés dessus. Interpellation dans le calme, alors que la jeune femme n'avait pas hésité pour faire évader son compagnon à ouvrir le feu sur un agent de la pénitentiaire avec un fusil à pompe muni d'une cartouche remplie de plomb de chasse. C'est le téléphone de l'adolescente qui l'a trahi. Appareil suivi à la trace par la brigade des fugitifs de la direction centrale de la police judiciaire. Sonia Fibleuil est la porte-parole de la police nationale.
Des investigations téléphoniques et des investigations techniques, donc aussi numériques, ont permis de localiser ces fugitifs, ce couple, en Allemagne. Ils ont retrouvé un fusil à pompe lors de leur interpellation et l'enquête déterminera si ce fusil à pompe est le même que celui qui a servi à l'évasion le 21 décembre dernier.
Un juge allemand doit entendre dans la journée le couple poursuivi pour évasion et surtout tentative de meurtre avant d'être remis aux autorités judiciaires françaises si tout se passe normalement dans les jours qui viennent. Il faut savoir que la jeune femme n'a pas d'antécédent judiciaire selon nos informations. Lui, en revanche, Louis Folker, était en détention détention provisoire pour l'assassinat fin septembre dernier dans le Val-de-Marne d'un jeune homme de 18 ans. L'Office central de lutte contre le crime organisé le connaît sinon pour de multiples tentatives d'homicide, séquestration et pour des braquages.
Emmanuel Leclerc, service police-justice de France Inter, merci à vous. À l'étranger, l'envoyé spécial des Nations Unies en Birmanie le dit, elle est profondément inquiète de l'escalade de la violence dans le pays. Les affrontements se poursuivent entre la junte et les opposants. Le jour de Noël, au moins 35 civils, dont des enfants, ont été tués à l'est du pays, dans l'état de Karen. Ils cherchaient simplement à fuir les zones de conflit. Le récit de la correspondante de France Inter sur place, Juliette Verlin.
Le gouvernement de résistance face à la junte l'a appelé le massacre de Noël de l'état Karen. Les photos des véhicules encore en feu et des corps calcinés sur une route au milieu de la forêt ont largement circulé sur les réseaux sociaux et dans les médias. Deux employés birmans de l'organisation non gouvernementale Save the Children sont portés disparus. Ils traversaient la zone pour rentrer chez eux pendant leur congé de Noël. L'ONG a reçu la confirmation que leur véhicule fait partie de ceux qui ont été incendiés. D'après les informations qu'ils ont pu rassembler sur l'incident, les militaires auraient arrêté une partie des voyageurs avant de tuer et de brûler les autres. L'ONG a depuis annoncé la suspension de ses activités dans la région. La junte a donné sa propre version de l'incident en déclarant que le convoi avait refusé de s'arrêter à un barrage routier et avait commencé à tirer sur les soldats, ce qui aurait déclenché le massacre. Pour la Karen National Defense Force, l'un des plus grands groupes de résistance armée de la zone, le convoi était composé de civils qui cherchaient à fuir les conflits intenses des environs. C'est la première fois qu'un incident de cette ampleur a lieu depuis le coup d'État, mais pour la population, ce n'est pas une surprise. Le pays est en guerre civile depuis des mois et la terreur reste l'une des armes les plus utilisées par la junte pour combattre la résistance. Rangoon, Juliette Verlin, France Inter.
Une semaine de deuil démarre en Afrique du Sud. Hommage à l'archevêque Desmond Tutu, figure de la lutte contre l'apartheid et prix Nobel de la paix. Mort hier à l'âge de 90 ans, ses obsèques auront lieu le 1er janvier en la cathédrale anglicane de Saint-Georges du Cap, son ancienne paroisse. En France, 10 jours après les incidents en tribune lors du 32e de finale de Coupe de France de football entre Paris FC et Lyon. Audition ce matin de la commission de discipline. Une décision sur le match est attendue ce soir ou demain matin.
Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV. We estimate you have 30 days left.
Il avait ému le monde en 2013 avec Dallas Buyers Club, film sur l'accès aux médicaments antirétroviraux étrangers pour les séropositifs américains. 2 Oscars pour ce long métrage, avec au générique Matthew McConaughey et Jared Leto. Le réalisateur québécois Jean-Marc Vallée est mort samedi chez lui près de Québec. Il avait 58 ans. Il s'était notamment fait connaître en 2005 avec le film Crazy. Plus récemment, il avait signé la réalisation de la première saison de Big Little Lies pour HBO, série multi-récompensée avec Reese Witherspoon et Nicole Kidman, dont vous entendez le générique. Dans un instant, le temps de votre lundi. Et puis, on parlera Covid et variants avec notre invité, le chercheur Bruno Canard. Vos questions 01 45 24 7000.
France Inter présente dans la collection de livres pour enfants Oli, Madeleine et les mots qui fâchent par
Mazarine Pinjot
et le voleur de sapin par
Agnès Martin-Lugan.
Pourquoi Madeleine dit de vilains un mot à la place des bons? Et dans le village de César et Gabriel, qui est le mystérieux voleur de sapins? Une histoire et...
Oui.
Des contes du soir imaginés par de grands auteurs, magnifiquement illustrés. Une coédition France Inter, disponible en librairie.
Tu sais comment un vrai connaisseur comme moi choisit un foie gras?
Bah tu regardes s'il est du Sud-Ouest.
Ah, tu es connaisseur toi aussi?
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Occitanie.
La météo pour ce lundi 27 décembre.
La météo avec les poulets de Loué. Régalez-vous d'un savoureux poulet fermier de Loué, élevé en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Un début de semaine agité.
Oui, j'espère que le Père Noël vous a offert un parapluie, hein, parce qu'il va être bien utile. Hein. Jusqu'à mercredi, nous allons assister à un véritable défilé de perturbations qui apporteront de bonnes pluies. On a déjà une perturbation qui balaye actuellement le pays et qu'on retrouvera cet après-midi sur la façade est, entre la Corse, la Côte d'Azur, la Franche-Comté, le Grand Est et les Hauts-de-France. À l'arrière de cette perturbation, Le temps sera plus changeant, restant tout de même bien nuageux. De belles éclaircies se développeront entre la Normandie et le bassin parisien jusqu'au nord Auvergne, ainsi qu'autour du golfe du Lion. En revanche, il faudra composer avec des averses de la Bretagne au Cotentin jusqu'au sud-ouest. Et puis avant la fin d'après-midi, une nouvelle perturbation pluvieuse va aborder les côtes atlantiques, avec des pluies localement soutenues et orageuses ce soir, en particulier entre le golfe du Morbihan et le Poitou-Charentes. Le vent va aussi nettement s'accélérer, avec des rafales pouvant dépasser 80 à 100 km par heure sur le littoral. Et puis vous l'avez sans doute noté, il fait doux, ce qui contraste avec le froid de la semaine dernière. Cet après-midi, les maximales seront 4 à 6 degrés au-dessus des valeurs de saison. Prévoyez 9 degrés à Strasbourg et Dijon, 10 degrés à Lille et Metz, 13 degrés pour Brest, Le Havre, Paris, La Rochelle, Clermont-Ferrand ou encore Marseille, 16 degrés à Calvi et 17 degrés à Biarritz et à Perpignan. Et cette douceur va s'accentuer dans les prochains jours avec un pic prévu pour mercredi et pour jeudi.
Merci Sébastien Léas de Météo France. Il est 13h29 sur France Inter.
France Inter. Le 13-14. Marion Loup.
Encore un réveillon sous Covid. Parfois, on se sent enfermé dans un jour sans fin, comme dans ce film avec Bill Murray. Alors, vous vous souvenez peut-être de la Saint-Sylvestre l'an dernier, sous couvre-feu entre 20h et 6h du matin. Le Conseil de défense cet après-midi devrait dire si couvre-feu il y a à nouveau et plus largement quelles mesures vont être mises en place pour lutter contre le coronavirus et la propagation galopante liée notamment au variant Omicron. 70 000 contaminations par jour en moyenne sur une semaine. Sommes-nous condamnés à voir se répéter les vagues de Covid avec des mutations sans fin du virus qui nous gâchent la vie? On en parle avec notre invité, le virologue Bruno Canard, chercheur au CNRS, spécialiste des variants. Bonjour.
Bonjour.
Vos questions, chers auditeurs, 01 45 24 7000. Alors Bruno Canard, le gouvernement examine cet après-midi plusieurs mesures possibles. Un couvre-feu, le retour du masque, la rentrée scolaire repoussée. On a dit déjà sur France Inter que cette option était écartée. La fermeture de certains lieux culturels. C'est quoi, d'après vous, l'arme fatale contre la Covid et ses variants, et son variant Omicron?
Alors, je pense que le problème principal qu'on rencontre, c'est la circulation élevée du virus. Et donc, toute mesure qui va tendre à faire diminuer cette circulation sera effectivement une bonne mesure. Le problème, c'est l'acceptabilité par les gens, quoi. Est-ce qu'on va pouvoir réellement arriver à ça? C'est un coût sociétal. Personne n'a envie de se restreindre, surtout en ces fins d'année d'ailleurs. Mais tant que la circulation du virus reste élevée, il y aura toujours un approvisionnement et une fabrication de variants, surtout que le virus rencontre des systèmes immunitaires qui sont petit à petit éduqués à le combattre.
Est-ce que limiter la circulation des personnes, ça fait partie des réponses? Il y a eu des vols, des milliers de vols aériens annulés ce week-end. Alors c'était plutôt lié en fait à la pénurie de personnel, mais les restrictions aux frontières notamment, ça fait partie de la limitation, des limitations qui peuvent être efficaces?
Je pense qu'il y a deux choses dans cette limitation de circulation. La première, c'est obtenir un délai pour pouvoir s'organiser en début d'épidémie, quand il y a un nouveau variant qui arrive. En particulier l'Omicron qui est justement beaucoup plus contagieux. Et ensuite, les perturbations que ça engendre, en particulier sur la circulation des informations, la capacité de toutes les sociétés à travailler et à s'organiser, et en particulier contre l'épidémie. Donc d'un côté, restreindre la circulation peut faire gagner quelques jours, mais en fait c'est assez illusoire. Et surtout, ça peut gêner beaucoup l'organisation. En particulier, je pense à l'Afrique du Sud qui a donné des résultats clés pour le monde entier.
C'est le pays où il a été identifié, Omicron, en fait.
Pardon ?
C'est le pays où Omicron a été identifié.
Voilà, c'est ça. Et en particulier, de restreindre les échanges de matériel, de les trajets, enfin tous les avions, etc., fait que la recherche est aussi empêchée et donc se ralentit. Donc c'est une mesure qui est intéressante transitoirement sur quelques jours, et ensuite effectivement de toute façon, comme on l'avait prévu, à partir du moment où on détecte un variant contagieux, c'est sûr qu'il est déjà beaucoup plus étendu que ce qu'on pense.
On a l'impression, Bruno Canard, qu'à chaque nouveau variant signalé du coronavirus, le virus est plus contagieux. Est-ce que c'est inévitable?
Alors, l'évolution et la sélection fait que c'est une des données qui est sélectionnée. C'est tant qu'il y a un potentiel d'augmentation de la contagiosité, forcément, c'est sélectionné, puisque seuls ces virus ont un avantage sélectif et petit à petit, ils déplacent les autres. Alors, heureusement, ça ne va pas de pair avec pathogénicité et gravité de la maladie.
Ouais. Ouais. Donc finalement, on peut espérer, si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, Bruno Canard, on peut espérer qu'un variant contagieux élimine l'autre et que Omicron, qui est peut-être un peu moins dangereux, écrase Delta, qui est encore majoritaire dans les hospitalisations.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit à l'heure actuelle, puisque je pense qu'il est à peu près clair que la pathogénicité et la dangerosité de Omicron est moindre que celle du Delta, par exemple. Alors, avec, effectivement, tout ça, quand on dit ça, c'est juste une part du problème, parce que si il est comme ça, c'est que effectivement il se heurte à une immunité qui a été créée par le Delta et par d'autres avant. Donc les causes sont multiples et complexes, mais le fait est que à l'heure actuelle, Omicron est moins dangereux et a une contagiosité plus élevée.
À ce propos, Frédéric nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Frédéric. Frédéric est-il avec nous? Bonjour Frédéric.
Ah, allô.
Oui, Frédéric, bonjour. Oui. Est-ce que c'est bien vous? Vous êtes en direct sur France Inter.
En tout cas, je suis un Frédéric. Écoutez, voilà. Je suis un petit peu étonné parce qu'il y a un vent de panique qui souffle là, alors que visiblement le variant Omicron n'est pas simplement moins dangereux que le Delta. Visiblement, il apparaît très très peu dangereux. Donc moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et je ne vois pas pourquoi on voudrait forcer les gens à se vacciner contre un virus qui en fin de compte très gentil, d'autant plus que le vaccin s'avère chaque jour moins efficace et ce qu'on ne dit pas avec beaucoup d'effets secondaires, tandis que
Frédéric.
Oui, mais écoutez, renseignez-vous. Ça n'empêche pas qu'on ait besoin de vacciner certains, hein, les plus fragiles. Je ne suis pas du tout opposé. Mais enfin, c'est un constat. Et puis il y a un autre constat. C'est qu'on nous parle d'hôpital, on nous parle d'urgence, on nous parle de nous tester, on nous parle de nous isoler, mais depuis 2 ans, les médecins sont interdits de soigner. Est-ce qu'en fait, on va pouvoir soigner avec des traitements qui existent et qui sont efficaces?
Qu'est-ce que vous entendez par interdit de soigner? Vous pensez qu'on empêche les médecins d'utiliser des traitements?
Écoutez, l'ivermectine est interdite, l'hydroxychloroquine ne peut être utilisée que
Frédéric...
au AMM, et la vitamine D, qui est un médicament formidable pour les plus anciens, qui s'oppose aux effets de la protéine spike, elle n'est pas vantée comme elle devrait l'être.
Alors Frédéric, l'ivermectine, pour l'instant, les études scientifiques ont prouvé que c'était un traitement qui n'était efficace. Enfin, en tout cas, on va poser la question d'abord peut-être sur ce variant Omicron qui est peu dangereux. Est-ce que finalement, Bruno Canard, ce que je comprends de la question de Frédéric, c'est est-ce qu'il ne faut pas souhaiter sa diffusion puisqu'il est moins dangereux que les autres souches?
Alors, donc, comme tous les problèmes, les interprétations sont multiples. Et effectivement, dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire avec une population qui a été exposée déjà à d'autres formes de la Covid, du virus, qui a été vaccinée, effectivement, Omicron arrive et ne fait pas les dégâts qu'il aurait pu faire probablement s'il était arrivé en fin 2019, comme premier SARS numéro 2. Voilà, donc effectivement, il arrive dans un contexte temporel, maintenant et immunologique, qui fait que il ne crée pas la vague. Il remplit des hospitalisations, ça c'est vrai, mais il n'a pas une vague de gens qui vont en réanimation.
Et est-ce qu'il signe pas la fin de l'épidémie?
Alors, je suis pas à l'hôpital, c'est ce que je lis et ce que je vois des données qui sont dans les publications.
Est-ce qu'il signe pas la fin de l'épidémie? Parce que parfois, les épidémies se terminent comme ça, avec des virus qui sont moins graves et plus contagieux.
Alors, donc là, je vais pas dire qu'il signe la fin de l'épidémie, mais ça pourrait, une probabilité que l'épidémie se termine comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un variant qui se diffuse très largement et qui ensuite profite de l'immunité qui a été créée par les variants précédents et la vaccination, et qui finalement se heurte à un mur immunologique et disparaisse. Vous vous rappelez dans l'épisode de H1N1 qu'il y a eu il y a quelques années, le virus a été absolument très contagieux. On s'est aperçu a posteriori qu'il s'était diffusé extrêmement rapidement sur la planète, mais sans créer de vagues de décès et d'hospitalisation, comme au départ il aurait pu le faire. Donc c'est comme si ce H1N1 était arrivé nous montrer ce qui allait être la fin de l'épidémie du Covid, mais le problème, c'est, on ne sait pas encore, là il faudrait une boule de cristal, de savoir s'il y a encore une possibilité d'avoir des variants qui crée justement cet échappement immunologique qui arrive à éviter la vaccination, les anticorps, et qui peut ensuite, en frappant des populations qui sont ni vaccinées ou fragiles, puissent faire des dégâts.
Bruno Canard, Frédéric posait la question des traitements. Est-ce que les traitements sont efficaces et est-ce qu'ils sont efficaces contre les variants, notamment Omicron ?
Donc les traitements qui existent, qui ont été approuvés, et donc quand ils sont approuvés, c'est que effectivement c'est des études qui ont été faites, des études cliniques qui ont été validées par une communauté scientifique, montrent que la pilule de Pfizer a un avenir intéressant devant elle, quoique l'échantillon était encore petit. Il faut voir quels vont être les effets potentiels si on l'utilise en masse. Le remdesivir, lui, il est oublié. Le molnupiravir, effectivement, il a d'autres problèmes. En ce qui concerne l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, c'est des débats sans fin avec des effets qui sont borderline, qui sont assez peu définis et qui ont fait l'objet de multiples études cliniques qui n'ont pas conclu. Donc après, on peut interpréter, être partisan d'une chose ou d'une autre, mais scientifiquement, les effets n'ont pas été démontrés comme concluants.
Chantal nous appelle du Rhône. Bonjour Chantal.
Oui, bonjour.
Vous avez une question pour Monsieur Canard.
Merci de prendre ma question. Voilà, je désire comprendre pourquoi, alors qu'il y a justement de plus en plus de personnes vaccinées, on en est déjà à la troisième dose, il y a tant de personnes atteintes du Covid. Est-ce un problème d'adaptabilité des vaccins? Et du coup, ne faudrait-il pas envisager d'autres recherches et donc d'autres moyens de soins?
Bruno Canard. Alors,
c'est une très bonne question, car nous avons une inconnue encore, qui est assez mal définie, qui a besoin d'avoir davantage de recherches. C'est quelle est la production virale, en intensité, en quantité, et des personnes qui sont déjà vaccinées ou qui ont eu déjà un Covid et qui vont avoir un autre Covid avec le variant Omicron. On ne sait pas exactement comment le virus circule, quelle est la contagiosité des gens qui ont déjà été vaccinés. Voilà, tout ça, effectivement, c'est une inconnue qui reste. On ne sait pas comment le virus, quelle est l'intensité de la production virale et de sa circulation à l'heure actuelle. Donc, on navigue encore à vue. Petit à petit, on sait que Omicron, est beaucoup plus contagieux, ce qui était au départ attendu en regardant les mutations de la Spike, observé en Afrique du Sud et ensuite confirmé avec sa diffusion actuelle. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est comment la production de virus et sa circulation est faite dans une population qui a déjà été exposée, déjà été vaccinée. Et donc c'est difficile, de prévoir la trajectoire de l'épidémie à l'heure actuelle. Sauf que effectivement, Omicron va très certainement s'établir et infecter une quantité extrêmement importante de gens, vaccinés ou pas.
À vous écouter, Bruno Canard, on manque un peu de données. En fait, est-ce qu'il y a un problème de séquençage en France, notamment ? C'est-à-dire qu'on identifie mal les variants qui sont concernés par les contaminations.
Oui, c'est un problème. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de séquençage qui se fait, enfin, moins que chez nos collègues britanniques, qui sont vraiment à la pointe de cette technique. Et il y a un problème aussi de remontée des données de séquençage et de partage entre les différents centres. Voilà, c'est un peu plus difficile. Ça se met en route. Ça a un peu traîné au début. Traditionnellement, la France n'est pas un pays qui avait habitude scientifique de faire vraiment des suivis de séquençage, comme les Anglais l'ont fait depuis historiquement, ceux qui ont inventé les techniques de séquençage. Voilà, donc oui, il y a eu, on est un petit peu à la traîne sur ce côté-là.
En un mot, Bruno Canard, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, est-ce que finalement, sachant ce qu'on sait, c'est-à-dire sur l'échappement éventuellement immunologique, est-ce qu'il faut continuer à vacciner malgré tout, même si ça peut créer aussi, favoriser l'apparition de variants?
Alors, de toute façon, que ce soit l'infection naturelle avec des anticorps ou la protection avec des vaccins, la création de variants est inévitable, puisque c'est l'immunité qui est le moteur, l'immunité qu'elle vient du vaccin ou des anticorps naturels, qui est le moteur de l'évolution. Donc, la stratégie de base, c'est tester et tracer isolé d'une part, limiter par les gestes barrières la circulation du virus. Et ensuite protéger les personnes fragiles. On sait, on a la chance de savoir si même la vaccination ne permet pas l'arrêt de la circulation du virus, on sait que la vaccination empêche les cas graves. Eh bien, prenons ça, protégeons les gens fragiles et ensuite on verra.
Merci Bruno Canard, virologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste des variants. Merci à vous de nous avoir répondu sur France Inter.
France Inter. Le 13-14.
13h44 à venir sur France Inter. Une semaine pour retourner voir les interlocuteurs rencontrés cette année pour notre feuilleton du 13-14. Aujourd'hui, Claire Chaudière retrouve la médecin du travail interviewée en septembre. Elle était submergée alors par la Covid. Et ça n'a pas vraiment changé, vous verrez. Juste avant 14h, Jean Lebrun et son Vif de l'Histoire nous ouvrent cette semaine les portes de lieux chargés d'histoire qu'on visite peu, mais qui sont pourtant accessibles aux curieux. Premier arrêt, la colonne de Juillet, place de la Bastille à Paris. Mais tout de suite, votre chronique de musique classique, La vie serait moins belle. Bonjour Anna Sigalevitch.
Bonjour Marion.
Anna Sigalevitch qui nous offre cette semaine ses morceaux choisis de musique classique sans qui la vie serait moins belle. Aujourd'hui, le choix de Jeanne Haddad pour la chanteuse. La vie serait moins belle sans...
Bonjour Jeanne Haddad.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on entend ?
On entend le début d'un des Wesendonklieder de Wagner qui s'appelle Im Treibhaus, chanté par Régine Crespin.
Comment est-ce que vous avez découvert ce morceau ? Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce morceau de Wagner ?
Alors j'ai découvert ce morceau un dimanche après-midi à Bastille, on allait voir Tristan et Isolde. Et en fait, il se trouve que ce lied, c'est le début du troisième acte de Tristan et Isolde, qui m'a complètement bouleversée. J'imaginais pas, en fait, j'étais allée voir Wagner par curiosité. Je connaissais mal et j'étais pleine de préjugés, comme on peut l'être sur les choses qu'on ne connaît pas. Et en fait, j'ai découvert à ce moment-là une très très grande sensibilité et quelque chose qui m'a vraiment profondément touchée. Et cette partie-là en particulier m'a obsédée, tant et si bien que, en en parlant avec mon voisin de palier, qui lui-même est chanteur lyrique, il m'a dit, mais tu sais, au lieu de se taper le truc en entier, tu peux aussi écouter les Wesendonklieder qui sont magnifiques, chantés par Régine Crespin. C'est lui qui m'a conseillé cette version qui est effectivement sublime.
Grande soprano dramatique française.
Et donc, j'ai finalement commandé la partition des Wesendonklieder pour essayer de jouer les quelques premières notes. Continuer de me transporter, même si je les joue très très mal, évidemment. Mais en tout cas, ça, c'est vraiment l'harmonie qui me rend dingue. C'est l'organisation des notes entre elles, ce qu'elles créent comme vibration dans l'air, qui là, sur ce truc-là, me touche profondément. Donc... Enfin, je sais pas, c'est comme un doudou, quoi. C'est vraiment quelque chose. C'est les premiers accords là, qui me font des caresses à l'intérieur. C'est merveilleux.
Est-ce qu'il y a des émotions particulières que vous avez découvertes en vous ? Enfin, je veux dire, est-ce que ça a touché un point que vous, inattendu, en écoutant cette harmonie ?
Il y a une tension, c'est-à-dire que c'est en quelques notes, il y a à la fois une tension qui se construit et la résolution de cette tension. Donc la musique, c'est que ça, hein, c'est créer de la tension et de la résolution. Et voilà, et donc il y a une sorte de build-up comme ça avec ce demi-ton et on respire, on souffle et ça recommence, c'est comme une respiration en fait. Ça pourrait être utilisé par le Wu-Tang Clan, ça m'étonnerait pas du tout parce que c'est vraiment de l'ordre d'une boucle. Ça raconte une sorte d'obstination, comme si on se tapait à la tête contre le mur à chaque fois ou je sais pas, quelque chose de notre rapport à des endroits d'arc en nous, mais qu'on va rechercher toujours pour retrouver la libération derrière.
Puis il y a cette voix de Régine Crespin qui est une voix extrêmement pure, et puis qu'elle chante quasiment tout ce lied de mezza voce de façon très très douce.
Oui, c'est étonnant. Ça, c'est aussi c'est quelque chose dans lequel on peut se baigner, s'envelopper. C'est très doux, très tendre. Je n'ai pas l'idée qu'on se fait de Wagner, d'ailleurs.
Merci Anna et merci à Anne Weinfeld pour la réalisation de votre chronique.
On se dit au revoir, Jeanne Z.
Avec le début, du coup.
À demain.
À demain, avec Patrick Duchamp.
Merci Anna, à demain. Il est 13h49 sur Inter. On profite de cette semaine entre deux fêtes pour vous faire revivre les plus beaux moments cette année de notre feuilleton Une semaine dans leur vie. En septembre dernier, Claire Chaudière nous emmenait dans le cabinet d'une médecin du travail, Olfa Jouini, qui exerce toujours dans un centre inter-entreprise du centre de Paris. Depuis 2 ans, l'épidémie de Covid a envahi son quotidien et celui des salariés qui la consultent.
Suivez-moi, s'il vous plaît.
En reprise de travail. Donc, il va falloir reprendre vos marques, reprendre ces marques petit à petit. Il faut que vous listiez et que vous sachiez quelles sont les difficultés qui pourraient vous faire briller. Maintenant, vous le savez. Quelle est la charge de travail qui fait que ça ne va pas aller, ou quelle est la forme du travail qui fait que ça ne va pas aller. Donc ça, vous le voyez arriver comme un feu rouge, vous voyez. Donc là-dessus, hop, je freine. On se voit dans 2 mois, madame, ok? Bon courage, bonne reprise, madame.
Là, cette dame, par exemple, ça a été compliqué. Elle a tenu pendant toute la crise sanitaire là, le télétravail, l'absence d'une collègue. Et puis, bah, elle a tenu. Et puis là, elle a lâché là maintenant. Alors, vous allez me dire, bah, c'est 1 an après. Mais oui, on a aussi des effets retardés.
Hop, et donc, vous étiez en arrêt.
Jusqu'à quand?
J'ai repris 26 dernier.
Bon courage, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous suivez les conseils, hein, d'accord?
Oui.
C'est un cadre que je suis là depuis quelques mois. Il a eu 2 choses. Il a eu le décès de son père, il y a 2 ans, avant le Covid. Et il y a eu le Covid, effectivement, et le confinement. Les managers ne vont pas forcément très bien. Ils ont l'opérationnel qu'ils ont toujours eu jusqu'à présent, ajouté avec les difficultés que le Covid a apportées. Des absences dans les équipes parce que les gens sont malades, des obligations de télétravail pour des histoires de cas contact. Ben, ils viennent parce qu'ils n'en peuvent plus, parce qu'ils ont un burn-out. Ils gèrent la crise et ils craquent après, en général, les managers, quand ils craquent.
Extrait du feuilleton dans le cabinet d'une médecin du travail, un feuilleton que vous avez signé. Bonjour Claire Chaudière.
Bonjour.
Depuis ce reportage, vous avez rencontré d'autres médecins du travail. Vous avez aussi pris des nouvelles du docteur Olfa Jouini. Et ce qui domine encore dans leurs consultations, c'est cette épidémie qui semble sans fin.
Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas vraiment décroché du Covid. Ils ont plutôt plongé dans une saison 4 de la gestion du Covid en entreprise. En octobre et novembre, énormément à nouveau de rappels à l'ordre, de pédagogie autour des gestes barrières en plein relâchement général. Avec la montée de la 5e vague qu'on a connue ces dernières semaines, les médecins du travail ont aussi vu débarquer dans leur cabinet de jeunes salariés complètement hostiles au télétravail. Olfa Jouini, qu'on entendait tout à l'heure, m'a raconté que certains sont venus la supplier presque de leur faire un certificat pour rester en présentiel si le télétravail devenait obligatoire. Ils disent avoir trop souffert de l'isolement. Elle m'a aussi parlé de DRH épuisés, angoissés, qui, après avoir eu un peu de mal pour certains à faire revenir tout le monde au bureau, ont aussi eu du mal à se faire à l'idée de repasser à nouveau à plus de télétravail.
Des chercheurs parlent ces dernières semaines d'une société fatiguée. Chez les médecins du travail, Claire, on observe effectivement une grande lassitude des salariés après 2 ans de Covid.
Oui, avec aussi surprenant que cela puisse paraître, encore pas mal de salariés qui décompensent, dont les nerfs lâchent pourtant presque 2 ans après le premier confinement, on l'entendait dans l'extrait, eh bien ça continue. Et puis effectivement, une fatigue hivernale, saisonnière, on va dire, plus forte que d'habitude cette année, comme si l'été dernier n'avait pas permis de recharger suffisamment les batteries pour tenir sur la durée. Et à cela s'ajoute une perte de convivialité en entreprise, impossible de faire des pots de départ, de trinquer avec ses collègues, autant de rituels qui sont pourtant très importants, disent les médecins du travail. Et cette fatigue, pour conclure, les entreprises vont peut-être d'ailleurs devoir s'en préoccuper plus activement, notamment sur le dossier des Covid long. C'est l'une des préoccupations principales d'une autre médecin du travail avec qui j'ai échangé, qui alerte depuis plusieurs semaines sur le difficile retour en entreprise des salariés atteints de Covid long avec des symptômes fluctuants, parfois très handicapants. Un sujet encore sous les radars des DRH, mais qui risque de prendre un peu d'ampleur dans les prochains mois.
Merci Claire Chaudière. Dans le cabinet d'une médecin du travail, votre feuilleton en 5 épisodes est à retrouver en intégralité sur notre site franceinter.fr.
France Inter, le 13-14.
En cette fin d'année, le Vif de l'Histoire consacré cette semaine aux lieux peu connus mais accessibles, comme la place de la Bastille à Paris, la colonne de Juillet précisément. Surmontée de son génie ailé, elle a longtemps été asphyxiée par la circulation automobile et fermée au public. Jean Lebrun, depuis le 23 octobre dernier, un accès a été rendu possible directement sur réservation.
En ligne. Nous sommes à l'emplacement de la forteresse de la Bastille, dont la destruction a fait entrer la lumière dans les cours et les ateliers du Faubourg Saint-Antoine et a laissé vide un immense espace. Alors, comme à cet emplacement se joint l'Ourcq à la Seine, il a paru facile d'ériger des fontaines monumentales. D'abord une fontaine de la Régénération. L'eau y jaillissait d'une sculpture représentant le dieu Isis. Puis une fontaine de l'éléphant. L'eau devait passer par sa trompe. Mais le pachyderme resta à l'état de maquette de bois et de carton. C'est dans les entrailles de l'animal que logeait le Gavroche des Misérables. Il me semble même avoir lu qu'on avait retrouvé les restes de cet éléphant sur le site de l'actuel BNF quand on a commencé à le dépolluer. Mais enfin, plutôt que de croire mes souvenirs, Marion, il vaut mieux lire l'ouvrage que Jean-François Decrane a consacré à la place et à la colonne.
Colonne destinée par la monarchie de Juillet à honorer les héros de la Révolution de 1830 qui avaient permis son installation.
Oui, ils sont tombés pour la défense des libertés publiques que le régime précédent, Charles X, voulait abolir. Mais la monarchie de Juillet a déçu les héros. Ne tenant pas les promesses de la Révolution, elle est devenue, elle aussi, impopulaire. Secouée par les émeutes, les attentats, elle hésite à poursuivre la construction du monument dont elle a pourtant décidé. Enfin, en 1840, la colonne est prête pour son inauguration. 504 noms de héros sont inscrits sur son fût. Leurs restes doivent, à sa base, rejoindre une crypte. Mais l'arrivée en ville du chapiteau au sommet a déjà provoqué des manifestations, des drapeaux rouges surgissant d'une foule hostile au régime. Et le ministre de l'Intérieur de l'époque, Rémusat, avoue dans ses mémoires quelle fut son inquiétude au moment du transfert des corps. Le char catafalque qui était trop lourd à manœuvrer, qu'il ne parvienne pas à tourner à angle droit, voire pire, qu'il verse, eh ben c'était le rassemblement et l'émeute assurée. Rémusat dit un pronunciamento démocratique qui aurait tenté d'ajouter un nouveau Juillet aux deux premiers, 89 et 1830. Fort heureusement pour les organisateurs, le trajet s'est déroulé à peu près sans encombre. Sur la place, les troupes de ligne commandées par le général Aupic, vous savez, le beau-père tant détesté de Baudelaire, a empêché tout stationnement prolongé. Et le soir, Rémusat fut accueilli par la famille royale aux Tuileries, bras ouverts, comme s'il avait gagné une bataille.
Et 8 ans plus tard, nouvelle révolution, février 1848.
Oui, alors Louis-Philippe, qui se croyait devenu expert indépassable en matière de mouvement de rue, avait observé depuis une fenêtre de son palais le mauvais temps. Il en avait conclu qu'il n'y aurait pas de révolution un 23 février. Eh ben, Paris perdu. Une loi de la Nouvelle République qui s'établit et dicte, dès le 3 mars suivant, un texte. Il va apporter son lot supplémentaire de héros à la colonne votive. Ils seront 196 morts de février à s'ajouter à ceux de juillet, soit 700 au total, Marion.
Et la crypte qui les abrite, c'est le point de départ de la visite rendue dorénavant possible.
La porte de bronze qui y mène depuis le terre-plein est ornée de deux têtes de lion, sculptées, comme tout le programme animalier de la colonne, par le grand Barry. Le lion symbolise non pas la monarchie, mais la puissance tranquille du peuple souverain. Et ensuite, un escalier hélicoïdal en bronze permet à la fois de renforcer la structure de la colonne et d'accéder, une quarantaine de mètres plus haut, à une plateforme extérieure qui offre une vue à 360 degrés sur la capitale. L'esprit du génie ailé du sommet souffle aux quatre vents de l'humanité. Mais on peut aussi être sensible aux particuliers comme à l'universel. L'administration des monuments historiques, dans sa bienveillance, a voulu conserver sur les murs intérieurs quelques-uns des graffitis gravés par des générations de visiteurs. Et on lit par exemple dans un cœur « Gaston aime Eugénie, 1903 » ou bien sur une ligne d'1 mètre de long « Les Jojos de la Bastille ». Les défunts de 1830 et de 1848 sont morts aussi, pour que nous puissions inscrire nos petites vies dans la grande histoire.
Le livre de Jean-François de Crane, La colonne de juillet et la place de la Bastille, est publié aux éditions du Patrimoine. Merci à vous, Jean Lebrun.
Avec le froid et l'humidité, le coronavirus circule de plus en plus. Pour se protéger et protéger les autres, il est primordial d'appliquer ces gestes barrières. Porter un masque à l'intérieur, aérer les pièces 10 minutes toutes les heures, se laver les mains, éviter de s'embrasser et de serrer les mains. Restons prudents et continuons de prendre soin les uns des autres. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Livre Inter 2021. Un jour ce sera vide, d'Hugo Lindenberg. Un petit garçon, orphelin, solitaire, sur la plage. Voilà qu'un autre enfant vient partager ses jeux. Et c'est comme une renaissance. Hugo Lindenberg.
C'est plus qu'une rencontre parce que c'est la première rencontre. C'est la première fois que, à travers les yeux d'un autre, un regard extérieur, un regard gentil, bienveillant, il va s'ouvrir au monde.
Les jurés du Livre Inter ont aimé la subtilité avec laquelle l'auteur dépeint les sensations d'un enfant de 10 ans avec des mots d'écrivain. Un jour ce sera vide, d'Hugo Lindenberg, Livre Inter 2021.
13h59, dans quelques instants sur France Inter, on part à la recherche des origines de la vie, rien que ça, dans la Terre au carré avec Mathieu Vidard et son invité l'astrobiologiste Nathalie Cabrol. Au téléphone sonne ce soir à partir de 19h20, Corinne Audouin et ses invités décryptent les annonces du gouvernement attendues cet après-midi après le Conseil de défense, des annonces pour endiguer la progression du coronavirus et de cette cinquième et sixième vague. Avec Corinne Audouin en studio, l'infectiologue Éric Combe, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales à la Pitié-Salpêtrière à Paris, et l'économiste Éric Heyer, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE, puisque la problématique du gouvernement, c'est bien sûr de contrecarrer la diffusion du virus tout en préservant l'économie et sa reprise. Vos appels 01 45 24 7000.